Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, nous lisons les versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, étant assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier : Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort : Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit : Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant : Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit : Que veux-tu que je fasse ? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit : Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, ouvre nos intelligences pour ce texte ancien, avec des mots anciens, pour qu'il nous parle dans notre vie aujourd'hui comme une parole vivante, car tu es un Dieu vivant.
Et ensemble, nous chantons maintenant le cantique 297, « Ô Dieu des grâces éternelles ». Alors je vous propose de chanter les strophes 1, 2 et 4 de ce cantique. Donc c'est dans le petit recueil bleu, « Louange et prière ». Vous pouvez prendre place, sauf les enfants qui vont, les enfants du primaire, donc, qui vont sortir. Vous pouvez laisser vos cantiques sur les chaises, et puis vous allez passer en face. Donc, il y a deux deux groupes qui vont avoir donc une deuxième partie de culte adaptée à leur âge grâce à Christina, donc, qui est pasteur, et puis Crystal. Pendant ce temps-là, nous allons avoir donc un jeu d'orgue pour préparer, pour entendre la prédication.
Je ne sais pas si parfois ça vous fait ça, mais moi, des fois, j'ouvre la Bible et je me dis « Bon sang, mais c'est bien sûr ». Alors, je sais que cette phrase-là ne vient pas de la Bible, mais ça me fait ça parfois. Ce passage de l'Évangile inspire particulièrement mon action de pasteur de la mission populaire en banlieue nord, dans le quartier des Agnettes à Gennevilliers, action que l'oratoire soutient fortement et c'est une occasion de vous remercier toutes et tous. Ce passage incroyable d'un aveugle qui hurle au bord du chemin, nous inspire pour cet évangile de libération, cette grâce transformatrice que essaye de vivre, que d'autres essayent de vivre et manifester, la mission populaire en milieu populaire depuis 1872, à l'époque où Wilfred Monod aussi essayait de vivre, engager les paroisses parisiennes, ici par exemple, dans ce même chemin. Qu'est-ce que cette histoire nous fait faire dans le quartier des Agnettes à Gennevilliers et qui fait qu'à notre tour, nous essayons d'être parabole de cette histoire, parabole de l'Évangile? Que faisons-nous? Nous faisons, alors plus modestement, ce que faisait Barack Obama dans les quartiers populaires de Chicago quand il était petit. Je sais, je n'ai pas la taille et pas la bonne couleur de peau et sans doute pas la même prestance à l'oral, mais c'est la même méthode, la même démarche. Ce que les Anglo-Saxons appel du community organizing, absolument intraduisible en français, le plus proche serait syndicalisme de quartier. Nous allons voir les gens en faisant des porte-à-porte, à la sortie des écoles, avec des potagers de rue, avec des animations de quartier. Puis nous les invitons à une assemblée de quartier où par petits groupes, ils travaillent sur des sujets de leur quotidien. La mauvaise isolation des appartements, les rats qui tournent autour des immeubles, un projet de tour de 50 mètres qu'on a planté devant les logements sociaux. Ensemble, les habitants décident sur quels problèmes ils veulent se faire entendre de la mairie, de l'office HLM, du département. Quel rapport avec notre aveugle qui ne vivait pas dans un grand ensemble? Il est en situation de handicap. De manière très symbolique, il est au bord du chemin. La communauté l'a laissé au bord du chemin. Il semble passif, dépendant de la charité publique. Certains diraient qu'il est un assisté. Nous rencontrons aussi dans nos porte-à-porte des habitants qui se sentent au bord du chemin, abandonnés dans leur HLM, dans ce quartier qui est le dernier de Gennevilliers à ne pas avoir été rénové. Notre aveugle est certes au bord du chemin, certes il ne voit pas, mais avez-vous remarqué, il entend. Il entend même très bien. Il entend tous ces gens qui ont parlé de Jésus. Il entend même sans doute des choses que les gens ne réalisent pas qu'il entend, parce qu'il est là, hein, assis par terre, à leurs pieds quand ils discutent. Il l'oublie, mais lui n'en perd pas une miette. Il a un handicap, mais il a une capacité. Il a de l'ouïe. Il n'est pas que handicap, il n'est pas que marge, il n'est pas que bord du chemin. Le handicap, la marge, le bord du chemin lui ont fait développer des capacités propres. Toute la Bible nous montre comment les femmes, les enfants, les esclaves, les impurs développent leurs propres compétences, leurs propres capacités d'agir, leurs propres stratégies. Et nous voyons que c'est la même chose pour les habitants des quartiers populaires, pour les sans-papiers, pour les Roms, pour les sourds et les malentendants. Oui, notre aveugle est capable. Oui, nos peuples d'aveugles ont de nombreuses capacités. L'a-t-il réalisé ? L'ont-ils réalisé ? Toute la méthode du community organizing que nous appliquons dans un quartier, mais qu'utilisent des paysans africains contre les multinationales au Cameroun, des femmes de ménage à Lyon, les employés des McDonald's parisiens, cette méthode consiste à faire prendre conscience au milieu populaire de cette idée simple, à ouvrir les yeux au peuple des aveugles sur une réalité qu'ils ont devant eux, mais qu'ils ne voyaient pas. Nous avons des capacités. Nous pouvons augmenter ces capacités d'agir. Nous pouvons faire entendre, et cela peut faire changer notre vie. Jésus ouvre les yeux de l'aveugle, en fait bien avant qu'il recouvre la vue. Car il lui fait prendre confiance, lui permet de voir cette réalité simple. Je suis capable, je peux. De quelle autre capacité prend conscience l'aveugle ? De son bord du chemin, il entend. Il entend « Jésus a soigné un tel, il a guéri tel autre, il a multiplié les pains et les poissons. Et moi, se dit-il, pourquoi pas moi ? C'est injuste. J'y ai autant droit que les autres. » Et il se met en colère. Cela va vous paraître étonnant, mais je pense que la colère est une capacité. Écrasé par l'injustice, beaucoup de gens perdent tout espoir. Ou alors retournent la violence qu'ils subissent contre eux-mêmes, alcool, médicaments, ou contre leurs proches, leur famille, leur quartier. La colère est au contraire alors une capacité salutaire, une énergie qui peut transformer le sentiment d'injustice en action. L'aveugle a une troisième capacité. Il sait saisir l'occasion. Saisir en l'occurrence ce Jésus et sa bande qui passent devant lui. En grec, c'est la notion de kairos, le moment opportun qu'il faut savoir saisir. En fait, Kairos est un petit dieu ailé, le dieu de l'opportunité. Il est représenté dans la mythologie grecque par un jeune homme qui n'a plus sur le crâne, ou qui n'a que sur le crâne, une touffe de cheveux, un peu comme Tintin. Quand il passe à notre proximité, il y a trois possibilités. Soit on ne le voit pas, soit on le voit et on ne fait rien, ou alors, au moment où il passe, on tend la main, on saisit l'occasion aux cheveux, dit-on en grec. On saisit l'opportunité. Ce kairos inspire beaucoup Paul dans ses lettres. On entend beaucoup, et on l'a beaucoup entendu pour ce quartier des Agnettes, ou pour d'autres quartiers populaires, que les gens des cités HLM, vous savez, ils sont passifs, ils n'y arrivent plus, ils n'ont plus envie de rien, ils seraient sans ressources pour agir. C'est ce qu'on nous avait dit à nous aussi. Mais ce n'est pas ce que nous avons vu. Lors du porte-à-porte, les gens se saisissent de notre passage. Depuis un an, nous avons dû frapper à 800 portes, discuter de nombreuses fois à la sortie des écoles. 400 personnes nous ont laissé leur numéro de téléphone. Ils ont vu cette opportunité que nous représentions et ils se sont emparés de ce que nous proposions. Il suffit parfois de tendre une perche aux gens pour qu'ils la saisissent. Et cette capacité à saisir le kairos, l'opportunité, est très présente dans les milieux populaires, parfois d'une manière un peu brutale, je ne sais pas, quand un ministre de l'économie va visiter une poste et qu'on l'interpelle en lançant des œufs. Nous essayons de faire qu'il y ait une façon plus non-violente, plus constructive de transformer cette colère. Parce que oui, cet aveugle marginalisé, en colère, saisit ce Jésus qui passe. Et il utilise deux autres capacités. La voix, vous l'avez tous remarqué, il hurle, le texte grec dit même qu'il gueule, et la ténacité. Quand les disciples le repoussent, il insiste. Vous reconnaîtrez là aussi les capacités des milieux populaires. Jésus lui demande alors, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est assez cocasse, parce qu'il est mendiant, aveugle, rejeté, mendiant et rejeté parce qu'aveugle, et que pourrait-il vouloir d'autre que recouvrir la vue ? Jésus ne pose pas la question pour avoir une réponse, mais pour que l'aveugle dise lui-même ce qu'il souhaite, exprime son propre désir, sa propre revendication, qu'il devienne un être de parole qui exprime publiquement, sans détour, ce qui le fait souffrir et ce dont il veut être libéré, qu'il exprime à celui qui peut quelque chose pour lui. Comment cela se traduit-il dans notre façon d'agir ? Dans les porte-à-porte, nous demandons aux gens ce qui ne va pas, mais aussi quelles solutions ils imaginent. Lors des assemblées de quartier où tout le monde se réunit, les gens vont eux-mêmes imaginer les solutions, choisir leurs revendications. Avec ces solutions, on va organiser des actions collectives vers les pouvoirs publics, où, comme l'aveugle du texte, ils vont dire publiquement et sans détour « Notre problème, c'est ça. Nous demandons ça. » Et ils le demandent lors de négociations qu'ils mènent eux-mêmes avec ceux qui peuvent résoudre leurs problèmes, la mairie, l'office HLM, le département. C'est cette méthodologie-là qui est employée dans de nombreux pays anglo-saxons, souvent soutenus par les églises. Faire ainsi, c'est aussi faire confiance à une capacité. Les gens, en général, sont experts de leurs problèmes. On parle toujours des experts, des spécialistes, de ceux qui ont des diplômes, y compris en théologie. Mais les gens savent, ils ont des idées pour résoudre leurs problèmes et ils peuvent les exprimer. Le texte dénoue ainsi. Jésus, avant que l'aveugle retrouve la vue, donne cette phrase qui, pour moi, résume tout ce que nous venons de dire. « Va, ta foi t'a sauvé, ta foi, la tienne. » Il y a au cœur de ce qui se passe, non pas la force magique de Jésus, mais la foi de l'aveugle qu'il a pu faire sienne. Mais quelle est-elle, cette foi ? Premièrement, elle est foi dans la colère de l'aveugle. La colère naît d'un sentiment d'injustice qui peut être transformé en action non violente pour réaliser une demande de justice. L'aveugle a une colère, il y croit. Alors que les disciples n'y croyaient pas, et que souvent on renvoie ça au milieu populaire en colère, eh bien les disciples rabrouaient l'aveugle. Jésus, lui, y croit. Il y donne de l'importance. L'aveugle peut y croire parce que quelqu'un y croit. Il lui a dit « Ta colère est juste. » Et vous, donnez-vous de l'importance à vos colères? Donnez-vous de l'importance à celle des autres? Vous contentez-vous, comme moi souvent, de me dire « Là, j'aurais pas dû m'énerver. » Mais savez-vous écouter ce que dit votre colère, ce qu'elle dit d'un mal-être, d'une injustice, de quelque chose d'écrasé? Deuxièmement, cette foi est foi dans les capacités de l'aveugle. Entendre, sa colère donc, sa voix, même quand elle écrit, sa capacité à dire ce qu'il veut et non pas qu'on dise à sa place ce qui est bon pour lui. Foi dans sa capacité à se mettre debout et marcher. Il y a cette phrase de Jésus, « Le Seigneur t'appelle, mets-toi debout », ça disparaît des disciples. Foi dans sa capacité à se mettre debout et marcher, agir avec ténacité et pas seulement recevoir. Avons-nous foi en nos capacités ? Est-ce que quand on est femme, enfant, issu de l'immigration, on n'a pas cette situation où on écrase toujours notre foi en nos propres capacités ? Est-ce que nous avons foi en nos capacités, en celles des autres, à leur capacité et à agir et pas seulement à recevoir ? Troisièmement, cette foi est une essence qu'on met dans le moteur initial qui est la colère et qui peut transformer positivement la colère. la transformer en mouvement, en mise en mouvement, des capacités auxquelles on donne foi. Confiance et foi sont deux sens du même mot en latin comme en grec. Va, ta foi t'a sauvé. Cela veut dire, tu as mis la main sur cette énergie incroyable que nous avons toutes et tous en nous, qui est la confiance. La foi n'est donc pas un truc magique, religieux, qui nous tomberait comme ça un jour dans le cœur. Quelque chose de religieux que certains auraient et d'autres non. C'est quelque chose dont nous avons tous et toutes un bout, souvent pas plus gros qu'une graine de moutarde, dit la Bible. Que dans les relations entre nous, nous pouvons soit complètement écraser ou au contraire faire grandir. Qui est potentiellement un formidable moteur pour la justice et l'émancipation. Si nous mettions toutes nos foi ensemble, qu'est-ce que cela donnerait? Voulons-nous le faire? Tout ça est possible, et c'est ma conclusion, car il y a la grâce de Dieu. Cette grâce qu'on annonce rituellement au début de chaque culte, le Seigneur vous donne la grâce et la paix, et qui est cette grâce qui dit un moment de grâce, mais cette grâce au cœur du message protestant que nous avons si souvent du mal à saisir. La grâce de Dieu, il faut là vraiment l'entendre comme le président de la République, qui fait grâce aux prisonniers. Nous étions enfermés dans plein de choses qui nous empêchaient d'eux. Notre histoire personnelle, notre histoire collective, notre classe sociale, notre race sociale, notre genre, notre quartier. Enfermés dans un monde de lois légales et théologiques. Tu dois rester à ta place d'impur. Tu ne dois pas rêver. Pour être un homme, tu dois être ceci. Pour être une femme, tu dois être cela. Dieu nous dit, je prononce la grâce, vous êtes libérés de tout ça. Ce n'est plus tu dois, mais tu peux. L'aveugle reçoit cela et manifeste cette réception d'une manière très visible. Il jette son manteau. Il jette ce manteau qui symbolise sa place sociale. Le problème de cette grâce si importante qui peut permettre de faire tant de choses et que finalement, personne n'a lu le journal où c'était pourtant écrit en gros titre sur la une. Et que nous qui l'avons lu, eh bien nous avons souvent du mal à le croire. Et c'est normal. Parce que c'est tellement incroyable cette bonne nouvelle de « vous êtes libérés de tous vos enfermements ». Ce cadeau est si énorme qu'on a du mal à le croire et que je crois qu'on ne peut le croire que si on l'expérimente. C'est pour ça que je vous ai détaillé notre façon d'agir, non pas pour dire « nous sommes les plus beaux, nous faisons des trucs fantastiques ». Et c'est vrai que ce n'est pas forcément la place de dire ça dans une prédication, mais parce que je crois que la grâce se manifeste, s'expérimente, et qu'il faut imaginer les formes, nos formes, pour l'expérimenter nous-mêmes. Est-ce que vous annoncez la grâce, l'Évangile, nous demande-t-on souvent? Nous essayons de la faire expérimenter, et donc croire, vivre et donc croire. Cette grâce surabondante, bouleversante, cette amazing grace du gospel qui ouvre les yeux de nos peuples d'aveugles, de nos yeux à chacun de nous, à chacune de nous, quand nous sommes aveugles. Cette grâce que nous pouvons tous et toutes expérimenter et faire expérimenter dans nos relations quotidiennes, avec nos proches, avec les gens que nous croisons, dans nos associations, dans nos lieux de travail. Alors, pouvons-nous expérimenter cette grâce? Je crois que, yes, you can.